Frères et sœurs bien-aimés, je pense que, comme moi, vous êtes souvent impressionnés par la puissance du mal qui est à l'œuvre. Par exemple, quand on voit les horreurs perpétrées par Daesh, par l'horreur aussi occasionnée dans les attentats ou la barbarie de certains faits divers, voilà. Que de mal. Et face à ça, la parole de Jésus dans l'Évangile peut nous paraître un peu utopique, peut-être un peu en dehors de la réalité. Et Benoît XVI, en commentant ce passage d'Évangile il y a quelques années, disait « En réalité, la proposition du Christ est réaliste. » Alors, comment est-elle réaliste ? « Car elle tient compte du fait que dans le monde, il existe trop de violence, trop d'injustice, et que par conséquent, on ne peut dépasser cette situation qu'en lui opposant un plus d'amour, un plus de bonté. Ce plus vient de Dieu. C'est sa miséricorde qui s'est faite chair en Jésus et qui seule peut déséquilibrer le monde du mal vers le bien à partir de ce monde petit et décisif qu'est le cœur de l'homme. » Voilà, alors plutôt que de partir dans des grandes théories sur le mal, etc., Jésus nous invite à regarder quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous font du mal ou qui disent du mal sur nous. Alors, je vais essayer de prendre trois parties. D'abord, Jésus nous invite à une forme de non-violence, mais pas une non-violence passive, mais une non-violence active. Après, de réfléchir sur le fait que le réflexe, quand il y a une difficulté, c'est de s'affronter. Et alors, justement, Jésus nous invite non pas à s'affronter, mais à affronter le mal. Et puis après, de voir quelques pistes pour quelques motivations, on pourrait dire, pour vivre ces exigences de Jésus, quand même, qui sont quand même pas si évidentes. Voilà, alors, il y aurait une mauvaise interprétation, d'abord, de ce passage d'Évangile qui consisterait à se dire, bon, devant le mal, bon, on se résigne. Donc une forme de non-violence passive. Voilà, on peut rien y faire. Et puis, voilà, on se laisse croquer en quelque sorte par le monstre du mal. On se laisse écraser par le rouleau compresseur passe. Ben, on reste là et on bouge pas. Et puis on se laisse écraser. Non, c'est pas ce que veut dire Jésus. Et il y a un instinct de conservation qui est bon, qui est sain. Il ne s'agit pas de se jeter pour la petite brebis, de se jeter dans la gueule du loup, bien sûr. D'ailleurs, dans la première lecture, mais Jésus ne va pas contre ce qui est dit dans cette lecture, tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Voilà. En même temps, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune, etc. Mais voilà, donc, ce n'est pas une violence passive, où on laisse le mal et puis on baisse les bras. Non. D'ailleurs, Jésus dit qu'il faut tendre la joue, mais il ne nous invite pas à lire ce verset de façon trop littéraliste, on pourrait dire, parce que dans sa passion, quand on lui donne une gifle, il dit, mais pourquoi fais-tu cela? Donc, il invite à réfléchir, il invite le soldat à réfléchir à ce moment-là. Alors, comme le disait aussi Jean-Paul II, parce que vous savez que les papes, depuis Paul VI, adressent un message pour la paix chaque 1er janvier. Alors, en 2005, Jean-Paul II disait, voilà, le mal ne se vainc pas par le mal. Si on prend ce chemin, au lieu de vaincre le mal, on se fait vaincre par lui. La seule manière de sortir du cercle vicieux du mal pour le mal, c'est d'accueillir la parole de saint Paul. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors c'est ce que Jésus nous dit dans ce passage d'Évangile. Si on fait un barrage au mal, c'est pas par le mal, c'est par le bien. Et on voit bien que si on se durcit contre le mal, en quelque sorte, ça le fait rebondir et il va un peu plus loin. Ou pour prendre l'exemple des paroles, si, si une parole vous fait du mal, vous la répétez, vous la colportez, etc. Et on ne fait que ajouter le mal au mal. Et ça fait boule de neige, voilà. Alors, donc Jésus nous invite à une non-violence, mais pas une non-violence passive, une non-violence active. Ça demande vraiment une force pour se positionner face à son ennemi. Mais quelque part, ce n'est pas tant se positionner face à son ennemi que se positionner face au mal. Alors, ça serait mon deuxième point, c'est ne pas s'affronter, mais s'unir pour affronter le mal. Alors, ça vaut à tous les niveaux, ça vaut en famille, ça vaut en communauté, en couple. Quand il y a une difficulté, comme je disais tout à l'heure, voilà, on peut... Quand il y a une difficulté qui se présente, ça peut nous inviter à nous opposer les uns aux autres. Et ça demande une certaine maturité pour justement passer et sortir en quelque sorte par le haut d'une difficulté, d'un conflit par le haut, pas en écrasant l'autre, mais en affrontant la difficulté. Alors c'est des spécialistes sur le mariage qui disaient que... Alors ils testaient pour voir... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les conjoints pour voir si leur couple avait des chances de durer. Et alors un des éléments, c'était de dire quand l'un des deux fait un commentaire négatif, mais que l'autre répond de façon positive dans une dispute, alors c'est un indice que le mariage risque de durer longtemps. Tandis que si ça fait boule de neige et qu'on... Voilà. Donc, ne pas s'affronter, mais s'unir pour affronter le mal. Quand on a mal, bien sûr, on a tendance à regarder ce qui nous fait mal, à regarder sa blessure. Et dans cette situation, ça invite à détourner pour un temps le regard de soi-même pour voir l'autre, qu'est-ce qui est difficile pour lui, pourquoi il réagit comme ça, de façon peut-être agressive. Ça ne veut pas du tout dire que sa manière de réagir est bonne, mais d'essayer de comprendre. Et encore pour revenir à ces spécialistes du mariage qui disaient que ceux qui disaient « nous » dans les conflits parvenaient mieux à résoudre leurs différends et sont moins stressés par rapport à ceux qui disent « je, tu » et voilà. Ou quelque part, ils se positionnent l'un en face de l'autre et non pas tous les deux dans la direction pour que le couple en sorte grandi. Alors ça, c'est un deuxième point qui me semblait important, toujours de ne pas perdre de vue, de ne pas regarder l'autre comme l'adversaire, et voilà, on entre en conflit, mais de regarder la difficulté concrète qui se pose et essayer de voir comment sortir ensemble de cette difficulté. Troisième point, donc, quelques pistes pour être un peu plus motivé, parce que aimer son ennemi, voilà, c'est aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. C'est difficile, et aimer ses ennemis, c'est, par exemple, est-ce que si je sais que quelqu'un dit du mal de moi, est-ce que je vais à la rencontre de cette personne avec le sourire, et puis voilà. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, ça, c'est parce que je veux aimer cette personne et je veux qu'on n'en reste pas là. Voilà, alors où trouver la force? Une première piste qui nous est donnée, entre autres par un moine du XIIe siècle, un moine cistercien, Elred Rievo, c'est de dire « Oh, rien ne nous encourage tant à l'amour des ennemis, en lequel consiste la perfection, l'amour fraternel, que de considérer avec gratitude la patience admirable de Jésus dans sa passion. » Alors, il y a des détails, mais je ne vais pas le faire maintenant. Mais première chose, contempler Jésus mort et ressuscité. Jésus qui est vainqueur qui est vraiment le premier vainqueur du mal par le bien. Deuxième piste, peut-être, qui peut nous aider. Alors là, vous pourriez relire quelques passages de l'Épître aux Hébreux, où l'Épître aux Hébreux nous invite à nous projeter, pas regarder simplement l'horizon terrestre, mais l'horizon du ciel. La foi en la vie éternelle nous aide aussi. parce que voilà, nous regardons à long terme. On ne regarde pas qui va avoir raison maintenant, mais on regarde sur le long terme, le très long terme, si on peut dire, justement, pour entrer au ciel. Voilà, quelle est la porte qui nous ouvre le ciel ? Puisque le ciel, c'est le lieu où le mal n'aura pas droit de citer. Deux et troisième et dernière piste que je vous laisse, c'est de croire davantage en la grâce qui nous est déjà donnée. Nous sommes déjà rachetés. Et Dieu nous donne déjà la grâce d'aimer nos ennemis. Alors clairement, c'est, comme le disait au début Benoît XVI, c'est quelque chose qui dépasse nos forces. Alors je vais vous citer Jean-Paul II encore une fois. Face aux nombreux drames qui affligent le monde, les chrétiens confessent avec une humble confiance que seul Dieu rend l'homme et les peuples capables de dépasser le mal pour parvenir au bien. Il ne faut pas oublier que l'homme racheté a en lui suffisamment d'énergie pour s'y opposer. Vous avez suffisamment d'énergie pour vous opposer au mal, puisque vous êtes racheté par Jésus. Alors pour nous, c'est de garder présent à l'esprit que nous avons la grâce aussi pour bien réagir face au mal, parce que nous sommes sauvés par Jésus. Alors nous pouvons demander devant le mal, bon, on ne fait jamais le fier, devant quelqu'un qui nous a fait du mal, bon, il faut vraiment prendre sur soi pour aller de l'avant, ça ne va pas de soi, ce n'est pas naturel, c'est évident. Mais alors on peut demander à Marie de nous accompagner dans ce chemin. Elle était toute proche de Jésus pendant sa passion. Elle a récupéré Pierre qui avait renié Jésus, et puis elle l'a remis en selle en quelque sorte pour que voilà, qu'il ne soit pas désespéré complètement de lui-même aussi. Donc Marie est à même aussi de nous aider dans ce chemin de l'amour des ennemis. Elle qui était au pied de la croix alors que les hommes tuent son fils, et puis Jésus lui demande d'être la mère de tous les hommes, et elle a accepté. Voilà, donc demandons à Marie de nous aider à faire ce chemin pour aimer nos ennemis, pas simplement les ennemis lointains, mais peut-être ceux qui sont auprès de nous et avec qui peut-être nous avons des difficultés au quotidien, peut-être pas des difficultés immenses, mais voilà, que nous sachions faire le premier pas, que Marie nous en donne la force. Amen.